Donc vous êtes ici, on va se voir, même si on se connaît un tout petit peu, mais c'est le jeu de l'interview. Vous êtes ici pour présenter votre premier roman qui s'appelle Mon numéro dans le désordre, publié aux éditions Léo Cher. Vous êtes né en 1974 à Albi. À quel âge avez-vous commencé à écrire?
Après quand je suis rentré en CP, je pense.
Que vous étiez à Bordeaux?
Oui, j'étais à Bordeaux, oui.
En fait, vous êtes du Cru. Racontez-nous un petit peu votre lien avec ce territoire.
Non, j'étais à Paul Lapille, à Codéran. Je suis né à Albi, mais mon père était vétérinaire et donc il a ouvert un cabinet à Mérignac, chemin long. Et voilà.
Et donc, tout près de l'aéroport.
Sur la route de l'aéroport.
S'ensuit alors votre arrivée à Paris. Et là, vous travaillez notamment en presse, en tant que journaliste.
Alors non, je suis passé par Vienne. Je suis parti en Autriche. En fait, mon père, sa société à Libourne, a monté une joint venture avec une entreprise hongroise. Et donc, il est parti diriger le groupe pour l'Europe de l'Est à Budapest. Et donc, moi, il m'a envoyé en pension à Vienne, en Autriche. Et quand j'étais en première, à Camille Julien aussi à Bordeaux, je suis parti faire ma terminale là-bas. Et après, je suis rentré. Enfin, je pensais revenir à Bordeaux comme si tout allait bien. Mais malheureusement, ma mère a eu une promotion et donc elle s'est élevée vers Paris, si j'ose dire. Mais moi, ça m'a plutôt fait le mouvement inverse.
Comment ça?
Parce que moi, je voulais revenir à Bordeaux, je voulais pas du tout...
Vous êtes un sentier écrasé non. Par la capitale.
Bon, écrasé, je t'en prie, Ariel, je sais que t'as grandi là-bas, mais... Non, c'est pas ça, mais...
Votre premier roman se passe à New York. De quand date votre rencontre avec cette ville? C'était la première fois que vous y
allez? Non. Justement, un des thèmes du livre, c'est que précisément, j'avais été à New York 4 ou 5 fois, et ma mère jamais. Et donc, en fait, je voulais réparer ce que j'appelais l'Atlantique préjudice, à savoir lui faire traverser l'Atlantique pour la première fois de sa vie, comme une espèce de baptême. Bon, en fait, elle avait été aux Antilles, elle avait été dans des endroits comme ça avant, dans sa splendeur. Mais elle n'avait jamais été à New York et comme elle était en dépression suite au divorce, etc., je pensais que New York allait lui donner l'énergie de la seconde chance, enfin, l'énergie américaine, l'American Dream.
Selon l'idée que l'on peut toujours se refaire là-bas.
Selon l'idée que là-bas, tout le monde est traité à la même hauteur d'homme et qu'effectivement, tout le monde peut tenter sa chance, que tu sois un Rome ou un noble... Slovaque, un peu comme toi.
le roman se passe en 2001. Tout ce voyage assez horizontal dans une ville verticale, quelque chose qui m'a frappé dans la lecture de ce livre. Tout le voyage se passe dans cette ville. Comment vous avez pris en charge la géographie de cette ville? Vous vouliez la décrire, vous vouliez raconter sa traversée, vous vouliez vous attacher à certains quartiers?
D'abord 2001, c'est une époque, c'est-à-dire c'était quand même une sorte de mirage, puisqu'il y avait la croissance, parce que tout semblait résolu, il n'y avait plus de la guerre froide, etc. Donc on était dans une espèce d'hubris occidentale complètement sans limite, et donc auquel le 11 septembre est venu mettre une sorte de terme. Et ensuite, effectivement, à New York. Donc, New York en 2001, avant le 11 septembre, c'était quand même c'était bien huilé, quoi. J'ai envie de dire, ça tournait, quoi. La ville tournait vraiment à plein. C'est-à-dire que les gens marchaient sur un côté du trottoir pour aller vers le nord de la ville, sur un autre côté du trottoir pour aller downtown, etc. Donc, si tu veux, tout était en place, quoi, pour que ça tienne. Tu comprends ? Il y avait une impression de solidité, mais incroyable, le 10 septembre. 2001. C'était presque étouffant parce que tout était rythmé. Ils allaient chercher leur sandwich à 12h15, ils repartaient au bureau à 12h25. Enfin, tout était comme ça, et tout était très, tu vois, dans une espèce de flux qui semblait sans fin. Et c'était vraiment. Donc tu parles d'horizontalité, mais il y a une horizontalité new-yorkaise sur place. Enfin, quelque chose de plus rhizomique, si tu veux, de plus dans l'idée de réseau, dans l'idée de. Mais quand même. Tu vois, une espèce de, comme, je sais pas, comme de l'eau qui se répand dans des canaux, tu vois, ou dans des vaisseaux sanguins. Quelque chose de, comme ça, d'organique. Tu sentais que c'était, 2001, New York, c'était le climax, comme on dit, le sommet, l'apothéose, l'apogée de la puissance américaine après deux mandats de Clinton et des guerres gagnées où, à peu près où ils voulaient. Ils étaient invincibles.
Et donc, tout à coup, le désordre que vous mettez enfin, le désordre, si on peut dire que l'attentat du World Trade Center a causé beaucoup de désordre dans la ville, vous le mettez en miroir avec le désordre de votre mère, ouais, qui vous accompagne à New York.
Ouais.
Vous passez peu de temps avec elle dans le livre. Un petit peu, mais pas tant que ça. Vous vivez aussi votre vie dans cette ville.
Au début, on est un peu en huis clos quand même. Mais
un petit peu.
Ouais.
Ce qui est très étonnant et assez amusant, parce que c'est un livre très, très léger en apparence, avec beaucoup de formules. Stylistiquement, c'est très enlevé. En même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes témoin de l'histoire à ce moment-là.
Oui.
D'un gros événement. Et c'est-à-dire que ce qui est assez réussi, c'est que il n'y a pas de concurrence, en fait, ni entre l'événement, ni entre votre personnalité. On vous sent à chaque moment ne rien perdre de votre esprit, de votre vivacité, du sens de la formule qui vient tout le temps vous interrompre vous-même. Ce qui correspond aussi à votre caractère. Où vous croisez énormément de références, énormément de jeux de mots aussi, ce qu'on voit rarement autant dans le roman français. Est-ce que vous avez eu peur de prendre en charge dans l'écriture un événement de cette ampleur ? Est-ce que ça vous a fait, est-ce que vous avez pensé ou réfléchi en amont à ce que ça pouvait signifier ou en tout cas au danger que ça pouvait représenter ?
Un danger pour qui ?
Bah, pour vous, d'écrire un mauvais livre.
Ah, oui, non.
C'est pas toujours évident de parler d'un événement historique d'un point de vue personnel.
Oui, non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on embarque dans l'histoire. Et il ne faut plus lâcher après. Et voilà. Et en fait, effectivement, le personnage a tout un tas d'injonctions, je dirais.
C'est-à-dire que sur place, il se demande même s'il doit écrire à propos de ce qu'il voit. Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur, c'est assez amusant à voir. C'est-à-dire que le personnage se dit tout de suite, bon, bah, il faut que j'écrive. Et le livre nous prouve en plus que le narrateur est écrivain, ou en tout cas écrit, et vous ne le faites pas.
C'est-à-dire qu'en fait, il est forcé. Son père lui dit, mais écris, raconte. Et lui, il ne réalise pas au début. Ce n'est pas son idée au départ d'écrire là-dessus, parce que lui, il veut juste profiter du fait qu'il fasse beau, comme aujourd'hui, à Bordeaux. Et surtout, il veut vivre et profiter de la guérison, en tout cas relative, de sa mère, pour vivre ses trucs à lui. Parce que tant que sa mère était en perdition, il n'arrivait pas à vivre sa vie à lui. C'est-à-dire qu'il était dans le cordon absolument.
Et c'est comme si même il n'arrivait pas à être le témoin de ce qu'il voyait.
Exactement.
Vraiment.
Et donc tout
c'est qu'il y a très peu de, descriptions de l'écroulement des tours, très peu de descriptions de ville. C'est juste là, comme ça, comme quelque chose qui se passerait dans le quartier d'à côté. Alors, mais ouais, c'est comme s'il ne réalisait pas sur place l'événement.
Oui, déjà, il ne veut pas. Enfin, il ne veut pas. Inconsciemment, il n'a pas envie parce qu'il pense que tout ça, c'est une super production américaine. Il n'est pas du tout anti-américain. Il fait partie
très construit par la culture américaine.
Il fait partie du moment.
Dans ses références.
Exactement,
dans,
ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, lui, il est dans un film. C'est la continuité de ses références. Il dit, c'est Godzilla. C'est une sorte de Fight Club. Au départ de Fight Club, tu vois qu'il y a les tours qui s'écroulent aussi. Donc, il est dans un truc un peu déjà vu. Enfin, il dit, oui, d'accord, mais OK. Donc, ils sont tartinés de poussière. Ils partent dans tous les sens, etc., etc. Mais bon, c'est où est-ce que je signe, moi, ma décharge de figurant dans cette histoire, parce que moi aussi j'ai mes droits de figurant. Enfin, il est complètement fou, en fait. Il comprend pas qu'on est dans un chaos de civilisation, etc., etc. Et surtout, il voit pas évidemment ce que ça va annoncer pour l'époque à suivre. Et si tu veux, oui, il est témoin. Mais en même temps, il est médusé, quoi. C'est-à-dire qu'il a l'air hyperactif par son langage, par ses références, et que d'un coup, il a un avis sur tout et qu'il réagit à la microseconde. Et en même temps, il est complètement largué. Donc, en fait, il s'accroche à cette espèce de logorée interne, intime aussi, qui lui bouffe le crâne. Parce que, en vérité, le réel lui échappe. Enfin, tout ce qui se passe devant lui est juste une espèce d'aberration pour lui. Parce que
il semblerait même que dans la formation de son œil et dans la manière dont il perçoit les choses, il est tellement construit en fait par la musique américaine, le cinéma américain, que c'est assez intéressant de voir cet œil. Parlez-nous de cet œil-là. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Qu'est-ce que la culture américaine vous a appris ou vous sert quand vous regardez quelque chose? Sur quoi ça joue, en fait?
Alors, ce que je dis à un moment...
Qu'est-ce qui vous touche profondément à ce moment-là?
Ce qui me touche, c'est le contre-rêve américain. Enfin, c'est-à-dire, l'Amérique, je le dis dans le bouquin, ils sont assez forts parce que d'un côté, ils infligent leur culture mainstream, donc la guerre des étoiles, les gros trucs, Michael Jackson, aujourd'hui Pharrell Williams, etc. Donc ils nous mettent ça dans la... Ce que disait notre ami Mirois avec Madonna, ils mettent ces gens-là en première ligne pour symboliser l'impérialisme, etc. Donc il y a cet aspect des choses. Et en même temps, la contre-culture américaine, l'underground américain, que nous, on va chercher, c'est-à-dire que c'est pas le mainstream qui vient, le mainstream qui vient à nous. On va chercher, nous, l'underground, en disant, c'est nos références à nous, on est allé chercher tel album des Pixies, tel film de Scorsese, etc. C'est nous qui sommes allés faire cette démarche. Donc finalement, ça devient plus interactif, enfin ça devient, entre guillemets, plus compromettant d'un certain point de vue. Et bien qu'il ne faille pas essentialiser à tout bout de champ le fait que, parce qu'un cinéma est fait par un Américain, du coup il y a une vision de l'Amérique dans chaque film sur l'Américain. Il y a des films américains qui sont tournés en Europe ou en Inde ou n'importe où. Mais donc il faut faire attention aux nationalités en art. En tout cas, si tu veux, entre ce double mouvement du mainstream qui vient à toi parce que tu ouvres le robinet de musique ou la télé et tu te prends ce truc américain en pleine face, et ce truc underground que toi-même tu vas chercher en disant « Ah, mais la scène de Boston, la scène de Seattle, la scène de Detroit, etc. etc. » Donc c'est toi qui fait le mouvement inverse. Finalement, t'es comme ça. T'es 100% américain. Puisque t'as... Et alors en plus, quand tu rentres en France, t'as Johnny Hallyday, Eddie Mitchell à l'époque, et maintenant Daft Punk et Phoenix, qui finalement une autre façon d'être yéyé, qui est de faire la musique américaine à la One Again en chantant en yaourt.
Qu'est-ce que vous avez retenu de la scène underground, entre guillemets, du début des années 2000
Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous est resté?
À la fin des années 90, début 2000, effectivement, dans ce que j'appelle les Trois Glorieuses.
Qui est la fin de la fin de l'ère analogique, entre guillemets.
Exactement.
On voit dans le livre la difficulté de se connecter à un modem.
Oui.
Ça replace l'histoire dans un contexte.
Là aujourd'hui on est des enfants gâtés avec le Wi-Fi et tout ça, mais c'était à l'époque tu nous aurais parlé du Wi-Fi.
Et donc fin des années 90.
Fin des années 90, dans ce que j'appelle les Trois Glorieuses, donc 99, 2000, 2001, qui sont trois années de croissance, trois années pour la France en plus de quand même relative à la fois prospérité et je dirais aussi intégrité politique avec le gouvernement Jospin. Et enfin, je veux dire intégrité au sens où ils ont tenu, ils ont fait 35 heures, etc. Enfin bref, il y avait plus l'équipe de France qui gagnait en foot, etc. Il y avait une espèce de, si tu veux, une espèce de moment comme ça qui n'a pas duré longtemps où on s'est dit, ok, c'est possible, on peut faire notre truc, on n'a pas besoin de papa, on n'a pas besoin de maman, on peut se construire nous-mêmes à travers Internet, à travers cette première vague d'Internet, ce qu'on appelait les start-up. Et voilà, donc musicalement, tout ça se traduisait par une forme d'hédonisme. Les trithérapies étaient aussi arrivées, ce qui fait qu'il y a eu un mouvement de relâchement. Après, il y a eu des débats là-dessus, côté gay, côté hétéro. Mais en tout cas, il y avait une espèce de sensation de nouvelles années 60, si tu veux. C'est-à-dire que sur l'espace de quelques mois, on s'est dit « Ah, ça marche !» On appuie sur le bouton, pouf, le robinet marche. Et donc, on arrive à monter une boîte, à gagner de l'argent.
C'est des signes qui se ont.
C'était nous, ma génération, si tu veux. C'était, parce que nous, ma génération, on a grandi avec le sida, le chômage.
Et vous aviez quel âge en 98, 2000 ?
On avait 27 ans, un truc comme ça. On nous a dit, sida, chômage, tu feras rien, mon pauvre gars. On a tout mangé, on a mangé tout le pain. Les 68ards ont tout quadrillé. Et là, tout d'un coup, on arrive avec nos objets à nous, nos références à nous, à émerger, à se construire, à se rencontrer, à vivre des choses. Et donc, c'était fantastique. Ça n'a pas duré très, très longtemps, mais c'était, euh, C'était les années Poppers.
Quand vous parlez de ce nous, vous désignez un petit groupe, une communauté, ou en tout cas des gens de la culture à Paris qui dans le cinéma, la musique, l'écriture.
Jean-François Tatin qui devait venir, mais qui reste à Paris, qui est un Bordelais en diaspora comme moi, me dit arrête de dire nous. Tu dis tout le temps nous et moi je ne me reconnais pas forcément. Voilà, il me dit moi je me reconnais, alors qu'on est de la même génération. Il me dit arrête avec cette espèce de façon d'englober tout le monde dans ton truc. C'est vrai que j'ai ce côté-là un peu entre guillemets boy scout, genre nous. Et d'un autre côté, c'est le nous tribal de ma faisolie, si tu veux. C'est le nous postmoderne entre guillemets, de dire. Comme une espèce de famille qui se recrée comme une génération spontanée, comme quelque chose de, comme une espèce de vie collective qu'on partage.
Mais une communauté artistique.
Ouais, une communauté, mais qui va au-delà même du temps, puisque tu vois bien, à un moment donné, je fraternise avec le baigneur de Cézanne, donc la peinture que je vois.
Qui a inspiré la couverture du livre.
Qui a inspiré la couverture et.
Tableau qui est à New York.
Voilà, qui est la collection permanente du MoMA.
Et qui raconte aussi donc un petit peu l'histoire de l'échange Paris-New York et comment les deux villes, les avant-gardes de chaque époque, ou en tout cas les undergrounds de chaque ville, ont toujours correspondu et ont toujours dialogué entre elles.
Exactement. Et en fait, quand tu arrives à New York, après le 11 septembre, donc le 13, et que tu arrives au MoMA et que tu vois cette peinture de Cézanne en ouverture de la collection permanente du MoMA, c'est-à-dire que tu te dis, ok, je suis au cœur de la ville moderne par excellence, je suis au MoMA, donc le musée d'art moderne dans la ville moderne, je suis dans la collection permanente, et le premier truc que je vois, c'est un tableau de 1885 français, de Cézanne avec un baigneur, et si tu veux, c'est un choc pour moi, parce que tout d'un coup, c'est comme si je m'étais métamorphosé ou je sais pas comment on pourrait dire.
Enfin, vous voyez à ce moment-là dans le tableau,
c'est incroyable, ça dure une heure et c'est en vrai. Je suis devant le tableau et je regarde le tableau, pour la première fois de ma vie, parce que je ne suis pas un spécialiste en art, etc. Et pour la première fois de ma vie, je suis devant le tableau, ma mère fait le tour du musée pendant ce temps-là, parce que je suis donc en vacances avec ma mère là-bas. Enfin, c'est des vacances un peu bizarres. Mais il se passe un espèce d'échange et dans cet échange-là, il y a un truc un peu plus rigolo, ce qui est en fait, comme il date de 1885, le tableau, et que la chanson de France Gall, Cézanne peint, date de 1985, en fait, je solde le compte
de cette chanson
dans ma tête des années 80 françaises, celles que j'ai connaissais du top 50, pour plonger dans les vraies années 80 littéraires, tu vois, voilà, les belles années, quoi, parce que 1885, en termes de littérature, c'est colossal. Et donc, quelque part, j'accède à ça. Et donc, c'est une communauté, mais c'est aussi une communauté avec des gens qui n'existent pas. Enfin, qui n'existent pas. Comme le baigneur de Cézanne, pour moi, il fait partie de cette communauté-là. C'est-à-dire que tu peux être un hologramme, tu peux être une invention, tu peux être un truc en pixel ou je sais pas quoi. Si tu apportes une couleur ou quelque chose d'intéressant, tu fais partie de cette espèce de... Enfin, d'intéressant. Voilà, il faut... il faut un peu comme ça, on est un peu dans le délire, mais tu comprends ce que je veux dire.
Chacun peut être sa fiction.
Exactement, c'est ce que les Daft Punk, du reste, ont compris en étant des fictions...
En arrivant masqué.
Des fictions vivantes, en arrivant habillé en robot. Mais si tu veux,
quant à la figure du baigneur, moi, ça m'a évoqué quelque chose de très adolescent, et finalement, le livre brasse beaucoup de références musicales. On vous imagine écouter, adolescent, toutes ces musiques. Est-ce que la figure du baigneur vous ramène à cette époque-là? Est-ce que vous vous identifiez en termes d'âge ou en termes symboliques? Est-ce que vous voyez un lien de l'ordre de cet ordre entre l'adolescent que vous avez pu être et le baigneur?
Oui,
mais le baigneur aussi, c'est la poupée.
Oui, non, alors d'accord. Non, mais le baigneur est un adolescent, puisqu'en fait c'est ça. Je dirais que quand tu écoutes le commentaire audio du musée. Il t'explique, en fait, si tu veux, même là, tu peux le voir, il est peint de deux façons différentes de chaque côté. Il y a un côté qui est fait au couteau, qui est un peu encore, je dirais... Enfin, d'abord, il y a un côté qui est fait à la brosse et au pinceau, qui est un peu impressionniste, et le côté qui est fait au couteau, qui est un peu plus... déjà, qui annonce l'expressionnisme, donc qui annonce déjà une rupture radicale et un côté un peu plus décharné, etc. Donc, si tu veux, quand tu tapes, quand tu es à un mètre du tableau, tu vois pas, parce que tu vois un corps, mais quand tu t'approches, tu vois que le corps est vraiment en deux. Et en fait, c'est un état de passage, c'est-à-dire qu'en fait, il sort du ruisseau.
On le voit même dans les jambes, dans la composition.
Voilà, c'est ça. En fait, il est un peu comme Robert Smith de Cure, avec toujours cette espèce de pied en avant, en regardant ses pieds comme ça, les pieds en dedans. Parce que voilà, il avance, mais il est un peu... et ça, c'est typique. Alors, vraiment typique de ma génération, de la génération Nirvana, tout ce que tu veux, grunge. Hein, c'est que on avance, mais bon, ben voilà, parce qu'il faut y aller, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas où on va, et on est un peu désemparé. Ce que disait un célèbre poète du coin, qui disait « Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien ». C'est un peu ça. Voilà, il désinvolte, il a plus d'électricité en lui.
Quel genre de certitude vous cherchiez en écrivant ce livre ?
Oh bah, je ne cherchais pas... Bah, si, la certitude d'avoir quelque chose à faire sur cette terre et d'avoir quelque chose à y laisser.
Ça vous manquait ?
Oui. Bah, tu sais, moi, je ne suis pas, voilà, je suis pas dans une famille d'artistes, hein, je te disais. Ma mère travaillait ici à Mériadec, à l'NPE, et puis mon père était vétérinaire à Mérignac et rugbyman, accessoirement. Donc non, si tu veux, donc moi, c'était pas, à part à venir chez Mola le samedi matin, parce qu'on avait vu Apostrophe la veille, pour acheter des bouquins, j'ai pas eu un héritage culturel très fort, hormis par mon grand-père, le père de ma mère, qui était alors lui un lecteur de Valéry, de Gide, etc., donc, qui était très... qui s'était formé dans l'entre-deux-guerres et donc qui avait une culture très exigeante, mais peut-être même un peu trop parce que...
Vous le portiez comme un complexe ?
Lui, il avait tendance à me casser, c'est-à-dire que... Oui, un complexe, oui, parce que lui, mon grand-père, j'en parle, je l'appelle Abba dans le livre. En fait, lui, c'est un littéraire, mais à la Piccoli, tu vois, enfin, une espèce comme ça de monstre sacré. Bon, il n'était pas du tout là, il était... En vrai, dans son métier, il n'était pas du tout là-dedans, mais par contre, tu verrais sa bibliothèque, etc. C'était un vrai amoureux des livres, et d'Aragon notamment, de d'Apollinaire. Enfin, il connaissait tout ça par cœur. Il nous faisait des cassettes, je me souviens, avec des récitations de Garcia Lorca, etc. Et si tu veux, lui, c'était l'inverse. C'est-à-dire que d'un côté de ma famille, j'avais vraiment presque aucun bagage, enfin aucune clé de compréhension culturelle ou artistique, et de l'autre j'en avais, mais c'était plutôt des verrous, quoi. C'est-à-dire que c'était plutôt non, tu n'accéderas pas.
Et à quel moment
tu n'accéderas pas à la littérature qui était sacrée pour lui.
À quel moment ces verrous ont-ils sauté ? Quels ont été les éléments déclencheurs ? Souvent, je ne sais pas quand chacun cherche ce moment souvent clé. Où les premières peurs sautent et on entre dans un processus où voilà, la culture devient quelque chose, ou en tout cas nous sert. À quel moment vous avez rencontré y a-t-il eu un événement déclencheur ?
Bah, oui, il y a eu en septembre.
Oui, mais c'est pas à ce moment-là.
C'est parce que c'est comme une apocalypse. C'est-à-dire une apocalypse au sens.
Vous étiez déjà dedans, vous étiez déjà dans la culture, ça vous intéressait déjà.
Ah oui, alors c'est l'adolescence, mais on pourrait se demander la même chose, enfin, de gens qui ont grandi. Effectivement, quand tu grandis à Bordeaux dans un milieu super favorisé où tout le monde va bien, où tout semble éternel, qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder ? Alors effectivement, on pourrait dire que Noir Désir, mais même avant, gamine ici à Bordeaux a été forcément tout d'un coup, on s'est dit ah, il y a des gens de Bordeaux qui font ça, parce qu'avant il faisait que du foot et du vin. Donc tout d'un coup, on s'est dit, bah, tiens, il y a aussi de la musique. Donc c'est vrai qu'il y a eu une phase où on a pu assister à Camille Julien, par exemple, qui était le lycée ici, enfin, où en fait Noir Désir est arrivé en 89-90, et que tout le monde a fait, enfin, parce que dans les semaines qui ont suivi, tout le monde avait un groupe de rock. Je me souviens, c'était moi dans ma classe, tout le monde a monté son groupe, par exemple. Donc le déclic, c'était un peu ça aussi, c'était que... On vivait dans une bulle totale ici à Bordeaux, mais on était réveillé de temps en temps par des gens qui allaient plus loin et qui allaient de travers et qui allaient en dehors des chemins. Et parce que sinon, pour nous, le chemin était tout tracé. Et donc voilà, ça a été un déclic. Après, sur un plan personnel, il faut apprendre à se faire confiance, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à explorer ce qu'on... Enfin, voilà, et en même temps connaître ses limites. C'est-à-dire pas justement se prendre pour un grand écrivain, pour etc. Se tenir à cette génération top 50, zapping, etc., quand même à laquelle je fais partie. Donc j'essaie pas de me prendre pour Chateaubriand. Par contre, j'essaie de faire au mieux par rapport à au bagage que je me trimballe. C'est-à-dire que moi, le côté top 50, le côté canal, tu vois, le côté un peu
canal big, canal plus,
canal plus, canard enchaîné, jeu de mots, enfin toute cette culture là,
cet esprit là,
je l'assume, voilà, cet esprit un peu parfois même un peu grivois, peut-être un peu limite, peut-être un peu facile par moment, mais ça fait partie de ma, j'ai envie d'être ça, donc j'ai envie,
oui,
que...
qui fait totalement partie de votre style, mais vous-même vous en faites quelque chose, enfin, vous essayez de
j'ai envie
de...
que ça parle, ouais,
vous avez envie que ça parle, vous avez cherché quoi stylistiquement?
Ben, statistiquement,
à faire cette composition ou essayer d'en sortir.
Non, mais c'est-à-dire que je n'ai qu'un maître qui s'appelle Éric Dahan,
journaliste
et malheureusement pas encore vraiment écrivain, mais bon, peut-être qu'un jour il s'y mettra, et qui faisait une chronique qui s'appelait Nuit Blanche dans Libération à l'époque, et qui sur une colonne t'amenait dans une espèce de méta-espace au-delà du temps, avec une espèce d'ubiquité folle où il était dans 5 soirées à la fois, donc il racontait la nuit parisienne. Je dirais d'un trait de plume qui pouvait être un trait de poudre ou d'autre chose. Mais il y a eu Pacadis avant, il y a eu plein de choses évidemment. Mais lui, il a vraiment saisi ce moment dont je te parlais tout à l'heure, ce moment hédoniste qui était un peu fou. Et voilà, il arrivait à te parler d'une matinée sur l'autoroute A1 pour aller à Roissy. Pour partir dans une after, etc. Enfin, il était vraiment en phase avec cette période et avec des fulgurances stylistiques assez folles. Donc, effectivement, le journalisme rock et ce côté un peu nerveux comme ça dans l'écriture, moi, m'intéresse parce que j'arrive pas. Enfin, ça me tombe des mains. Sinon, si c'est un peu trop lénifiant ou un peu trop écrit, donc j'aime bien quand ça castagne un peu. Mais après, est-ce que j'ai cherché ça ou est-ce que j'ai fait ce que j'ai pu ? Je ne sais pas. Et puis maintenant, ça apparaît aussi parce que j'ai travaillé aussi avec des gens comme toi il y a certaines années qui m'ont aussi, appris et dirigé, enfin surtout à enlever tout ce qui, voilà, tout le gras dans les phrases, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'adverbes, il y a beaucoup de trucs, etc. Donc,
comment vous définiriez le...
Il faut aller à l'os de ce que toi tu veux dire, de ce que toi tu peux faire, de ce que et il faut aller, voilà, il faut aller vraiment au plus sec, en fait.
Le narrateur n'est pas vraiment sec dans le livre.
Non mais moi j'essaye de ne pas en rajouter dans l'humidité, si j'ose dire.
Ne pas en rajouter dans l'humidité.
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 Non, mais j'essaie de, justement, effectivement, il n'est pas sec, parce qu'il est, il est presque un continent, d'un point de vue culturel, verbal, etc. Il parle tout le temps dans sa tête.
Et en fait, sans jamais vouloir être bavard.
Sans jamais trouver quelqu'un qui parlait. Donc s'il trouvait quelqu'un qui parlait, il serait très bavard. D'ailleurs, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il est très content, parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de... Tu vois, c'est comme un poisson, Alors lui, il a besoin de parler, il a besoin d'échanger, il a besoin de graver des choses, parce qu'il suffit de parler à une personne pour que ça se grave et pour que la chose existe. Je crois que c'est Nietzsche qui avait dit « Ce qui n'est pas partagé n'est pas vécu ». Et donc, à partir du moment où il est dans un dialogue perpétuel, donc s'il doit dialoguer tout seul avec lui-même, il le fera, mais il continue. En fait, ça ne s'arrête jamais. Puis s'il rencontre quelqu'un, il continue à dialoguer avec cette personne, puis la personne s'en va parce qu'à un moment donné, il est tard ou que... Et donc, mais il continue. Et en fait, il est dans une espèce de fuite en avant.
Et en même temps, il cherche pas forcément le dialogue avec sa mère. Donc, qui est malade, qui.
Oui. Alors, est-ce qu'il cherche pas le dialogue ? Oui, le dialogue, il est pas évident.
Il l'emmène à New York. Il essaie de s'en occuper. Mais en même temps, c'est un personnage avec qui il parle. Pas énormément, ou en tout cas, il rentre pas dans une conversation. Voilà, il y a les limites de la position du fils, en fait, qui ressortent dans le livre.
C'est-à-dire qu'il considère, pour aller dans ce, dans ton sens, mais pour, il considère que, si tu veux, il n'a pas vraiment à parler avec sa mère, parce que de toute façon, son dialogue intérieur, il participe déjà de ça, donc il pense qu'il ne va pas se répéter, même, je dirais, en vrai, c'est-à-dire qu'il ne va pas sortir les mots de son esprit, il va laisser les mots dans son esprit, parce que, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont presque tellement utérines, d'une certaine façon, au sens qu'il n'a pas besoin de les formuler. Et donc, finalement, le dialogue avec sa mère, il se passe aussi sans rien dire. Donc, il n'a pas besoin d'échanger. Et puis, de toute façon, c'est quasiment impossible. Tu vois bien dans quel état la mère d'Arthur Gannat, le personnage, se trouve. Donc, bon, déjà, le dialogue, c'est pas possible. Ensuite, voilà, donc le dialogue, il passe aussi par la génération, par comparer sa génération à celle de tes parents, etc. Par le jeu des références et des rencontres. À la fois de gens, mais d'œuvres, etc., que tu peux faire dans une vie. Et voilà, donc le dialogue, il est aussi, je dirais, extra-personnel. Enfin, tu vois, il est pas forcément... Il y a un dialogue avec la mère, évidemment, mais il passe aussi, je te dis, par le dialogue culturel avec sa génération, avec son... Voilà, et c'est pas forcément elle comme personne avec qui je vais échanger, mais par contre, c'est comme un... C'est comme un plafond de verre ou, tu vois, quelque chose que tout y revient, quoi, forcément.
Quel souvenir gardez-vous personnellement de New York ?
Oh ben, j'ai plein de souvenirs. J'y suis retourné d'ailleurs depuis. J'y suis retourné deux fois depuis.
Vous pensiez au livre à ce moment-là ?
Ben, si tu veux, j'avais laissé tomber le livre à un moment donné, parce que j'y arrivais pas. J'avais beau avoir des copains qui me disaient « Vas-y, t'es écrivain, machin. » Parce que je fais de la musique aussi, mais on me disait « Mais non, mais toi, ce qui est bien, c'est les textes, il faut que t'écrives. » Et donc, je disais oui, j'arrivais pas. Enfin, j'arrivais à écrire, comme ça, à activer un clavier d'ordinateur, mais j'arrivais pas, le truc n'arrivait pas à sortir en me disant, ok, là, je vais...
Et vous êtes retourné à New York pour écrire ?
Non, je suis retourné à New York, oui, pour écrire, mais un article en presse, avec donc Sean Lennon et sa compagne magnifique, Charlotte Kempmühl, que j'ai interviewé dans son lit. C'est que John Lennon et Yoko Ono à l'époque faisaient donner des interviews qui s'appelaient des bed-in dans leur livre.
Ouais, ouais.
Et moi là j'ai fait un in-bed avec son fils et Charlotte Kempmühl. Donc j'étais allé à New York pour ça, c'était en 2008, c'est pendant l'élection de la première élection d'Obama.
Et donc vous pensiez déjà raconter l'histoire que vous aviez vécue 7 ans avant ?
Non mais j'avais commencé à l'écrire. J'ai commencé à l'écrire le jour même en fait cette histoire. Le lendemain j'ai commencé à écrire l'histoire. D'ailleurs j'ai écrit un article à l'époque qui sortait dans la presse juste après le 11 septembre. Avec mes premières impressions. Mais si tu veux, ouais, c'est ça. Non, par contre, le fait de retourner à New York m'a redonné la pêche. C'est-à-dire que j'avais un peu laissé tomber en me disant j'ai pas le temps, j'y arrive pas, puis c'est pas grave. Finalement, j'étais que juste une des 10 millions de personnes présentes à Manhattan ce jour-là. Donc, je voyais pas ce que forcément j'avais de plus intéressant que d'autres à raconter. Je veux dire, quelqu'un qui part en vacances avec sa mère à New York. Bon, oui, ok, il y a un attentat.
Il faut dire que beaucoup de romans sont barrés depuis maintenant.
Donc j'avais laissé tomber. Et en fait, Oui, pardon.
Oui, ce qui, je vais faire un compliment. Comme ça.
Non, vas-y, tu peux. Hein.
Non, mais c'est vrai. Beaucoup de romans ont parlé évidemment de cette. Beaucoup de romans ont parlé de cet événement. Là, ça ressurgit 13 ans après, d'une manière presque anecdotique. Dépassionné, sans propos politique, et ce qui en même temps donne aussi un effet de réel assez fort, c'est-à-dire, voilà. Parlez-nous de ça.
Alors juste pour terminer sur tout à l'heure, c'est, je veux dire, quand je suis retourné à New York, ça m'a donné l'énergie, parce que la ville, quand elle est tellement électrisante comme ça, que quand tu repars, tu dis « Ah, mais je vais reprendre mon bouquin », donc j'ai repris mon bouquin à ce moment-là. Et ta deuxième question, c'était quoi, pardon, celle que tu viens de poser ?
Il faut que vous reveniez sur 13 ans de travail, là.
Alors, le timing, oui, non, le timing, c'est bien, parce qu'effectivement...
Le timing, et puis le fait que c'est, oui, je disais, dépolitisé, que ça,
oui,
que le 11
oui,
septembre enfin, a vraiment presque anecdotique.
Ben, moi, je fais pas de théorie sur le 11 septembre, de toute façon, mais ce que je raconte juste ce que je vois. Après, on peut parler du 11 septembre comme d'un objet d'étude, mais sur le moment, c'était pas mon sujet. Bien que, sur place, des Américains, le jour même ou le lendemain, contestaient évidemment déjà la version officielle. Il n'y a pas plus américain que contester la version officielle. De toute façon, là-bas, c'est un sport national de contester de contester le gouvernement. Donc, il le fait, ils ne se sont pas privés. Et le 13 septembre, j'ai vu à Columbus Circle des mecs, des Américains, de New Yorkais, 100%, avec des casquettes, etc., t'expliquer que c'était Bush qui avait tout monté, que c'était un coup de la Maison Blanche, etc. En parlant des attentats, devant des parents de victimes, hein, qui d'ailleurs qui se gueulaient dessus, mais il y avait un débat. Voilà, il n'y a pas de violence physique, il y avait un débat et qui était accepté par tous. Donc aujourd'hui, quand en France, on te dit non, surtout, il ne faut pas parler des théories du 11 septembre, je dis bah, faites ce que vous voulez, mais enfin, les Américains, eux, le font. Donc si tu veux être plus américain que les. Ah, bonjour. Boulard. Donc si tu veux être plus américain que. Si tu veux être plus américain que les Américains, c'est toujours possible.
Un mot sur l'autofiction.
Tu dis dépolitisé, ça l'est pas totalement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dépassionné, mais encore l'autre jour, j'étais dans une librairie et on m'a dit, mais vous vous rendez pas compte.
Vous touchez à l'histoire, on vous a reproché.
Des gens sont morts dans ces tours et. Et vous traitez un peu tout à la dérision, etc. Et alors que moi, je connais des gens qui sont morts. Je dis, ben oui, mais moi aussi, puisque j'y étais. Donc
quelque part, ils étaient face à
non,
vous.
Non, mais je ne suis pas cynique. À un moment donné, le vent se retourne vers l'intérieur de la ville, donc je respire les débris des tours.
Vous voyez les corps tomber.
Oui, mais ça, je les vois à la télé.
Début, hein.
Oui,
ouais.
Enfin, parce qu'il y a aussi un rôle de la télé qui
oui,
est
oui,
important.
Oui, oui, oui. On y reviendra après.
Voilà. Parce que même le jour même, alors que je suis sur le toit, je préfère aller voir à la télé pour vraiment, ça devient vrai pour moi quand je le vois à la télé, ce qui est quand même bizarre parce que j'étais juste en face. Et ça redevient vrai, ça devient vrai quand je le vois à la télé, ça devient important quand je lis dans Le Monde, retour dans l'avion, parce que tout d'un coup je vois, ah
Oui, nous sommes, toute la fameuse phrase, nous sommes tous américains.
Avec l'édito de Jean-Marie Colombani à l'époque, ouais. Qui disait nous sommes tous américains, ouais. Comme à l'époque on était tous
américains. En fait, sous tous ces différents filtres, le roman donne une échelle très, très humaine, en fait.
Oui, ça permet de se promener, en fait, dans tout ça. Ça permet de se promener dans les débris des tours, dans les débris de cette, je te dis, de cette hubris occidentale qui pensait avoir triomphé de tout, des Russes, enfin, du communisme, etc. Donc, qui n'avait pas de... Tu sais, c'est comme le shadowboxing, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne à qui il boxait dans le vide. Donc il n'y avait plus d'ennemis, en fait, jusqu'au 10 septembre, jusqu'en septembre à 9h. Il n'y avait rien en face. Enfin, il y avait des ennemis, mais ils étaient dans l'ombre. On les voyait pas. Et tout d'un coup, paf, éclate au grand jour, en plein soleil, comme ça, une espèce de choc de civilisation qui avait été formulé avant.
Et à ce moment-là, dans la ville, vous croisez... Des personnages, il y a toute une galerie comme ça de personnages qui apparaissent. Des gens de la ville.
C'est-à-dire qu'à New York, si tu veux, pour faire simple, à New York, tu rencontres personne en vrai, avant.
Enfin, chacun est dans son rôle, chacun occupe.
C'est une ville qui va très vite.
Le pompier.
Je te disais, tu as des sens sur les trottoirs, tu as un sens pour aller uptown et un sens pour descendre. Donc si tu veux, déjà, les gens sont comme des. Si tu veux, comme des automates. Donc en fait, il n'y a pas de hasard, on flâne pas, par exemple, à part les touristes peut-être, mais le New Yorkais, non, il flâne pas, il perd pas son temps, etc. Et donc, parce que bon, le Parisien, il perd son temps, hein, même s'il travaille, je peux te le dire. Donc, il y a une culture comme ça du farniente, un peu latine, etc., qu'il n'y a pas du tout là-bas, enfin, en tout cas, à cette époque. Et arrive l'an septembre, arrivent ces journées un peu irréelles, où il fait très beau et la ville est bouclée. C'est-à-dire qu'on est dans une zone d'évacuation entre Canal Street et 14e rue, où, si tu veux, il n'y a plus de cash machine, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de...
Les McDo sont vides.
Les McDo servent du Burger King parce qu'ils sont en rupture de stock. Enfin, voilà, plein de choses complètement folles dans l'idée d'un Américain sont en train de se produire là. Ce qui d'ailleurs est la matrice de beaucoup de choses complètement folles qui sont arrivées après, y compris aux États-Unis, notamment l'élection d'Obama. Je pense qu'Obama n'aurait jamais été élu sans le 11 septembre. Et ça, c'est ça, si tu veux. Parce que c'est. En plus, les Noirs américains, il faut quand même voir aussi que les Noirs américains, c'est un des infrasujets dans le sujet. Il y a eu énormément de victimes noires américaines dans les tours. Et les plus patriotes de tous, finalement, le lendemain des attentats, ça a été les Noirs américains. Mais ça devenait presque ridicule. C'est-à-dire que moi, je me suis fait contrôler par un mec du Bronx avec un. Qui avait sûrement fumé du crack avec une espèce de barésie sur la tête, tu sais, comme ils ont en prison là-bas. et qui me demandait ma carte d'identité parce qu'il voyait que j'étais un touriste. Et donc il est venu me voir, il me dit « Show me your ID », enfin je raconte la scène, mais très agressif. C'est-à-dire que j'ai cru qu'il allait me tuer tout simplement, avec ses dents en or et tout, il me demandait ma carte d'identité. Parce qu'ils étaient, ils ont basculé dans un truc, comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Noirs américains. Et d'ailleurs, tu vois après, dans les GI en Irak, il y a eu énormément de Noirs américains. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une espèce de, il y a eu une espèce de catharsis nationale entre Noirs et Blancs. Et tout d'un coup, la race, à ce moment-là, enfin, le problème racial là-bas, a complètement basculé dans autre chose. Parce que des pompiers qui sont allés chercher des camps, il y en avait beaucoup qui étaient, énormément qui étaient Noirs. Les victimes... dans le personnel des tours, qui est, ça va de, même dans l'establishment. Il n'y a pas que des balayeurs, hein, qui étaient tout le monde. À New York, c'est une ville très très noire. Il y a eu un maire noir, le premier maire noir en 93, David Inkins. Donc c'est une ville, si tu veux, le présentateur sur New York One, c'est un noir américain. Enfin voilà. Donc il y a pas que à Harlem. On dit à Harlem le Bronx, mais dans toute la ville, dans tout Manhattan, il y a énormément de mixité, je dirais. De couleurs. Donc ça a été, moi, pour un Français, ça a été presque une... Voilà. Et je pense qu'Obama sort de là, parce que aussi il y avait besoin de réparer l'image que Bush avait souillée quelque part. Il a trempé le drapeau américain dans l'acide sulfurique et dans le chlore. Mais voilà, donc si tu veux, dans ces trois jours qui ont suivi le 11 septembre à New York, ça a été finalement le creuset, la matrice de beaucoup de règlements qu'il y a eu après, dans les années 2000 après.
Vous parlez de mixité dans la ville, ça vous fait rêver ?
Bah, c'est une mixité communautaire, après c'est le modèle américain, après est-ce que ça fait rêver ? Tu sais, quand tu es à Little Italy, que tu as un côté de la rue qui est italien, un côté qui est chinois, et que personne ne se parle, personne ne traverse la rue, bon, est-ce que c'est un idéal pour un Français ? Non, je ne pense pas. Nous, on préfère le modèle d'intégration. On ne veut pas... voilà, donc non, ce n'est pas un idéal. En même temps, c'est ce qu'on appelle l'affirmative action, c'est-à-dire le fait de dire, tiens, on va mettre un quota, on va mettre tant d'Indiens, tant de Latinos, tant de Noirs, tant de machins, à la télé, dans les films, etc., etc., etc. Et donc, ce qui relève d'une politique de discrimination positive, à terme, ça produit quand même des résultats, puisqu'ils sont quand même un président métis, ce que nous, on n'est pas prêt d'avoir. Et d'ailleurs, on ne dit pas assez que Obama est métis. On dit souvent, tout le temps qu'il est noir, parce qu'il y a la terminologie américaine qui dit que quand tu es métis, tu es noir. Paf, tu tombes du mauvais côté de la pièce, pas de bol. Mais et l'histoire, alors que tu es métis, c'est toute la force d'Obama, c'est d'être métis. Et même, enfin, c'est pas pour faire une digression forcément sur lui, mais moi j'ai été très très touché quand il a raconté sa grand-mère à Hawaï, blanche, qui était raciste, et le seul noir. Qu'elle a accepté, c'était son petit-fils, Barack, mais qu'en fait, elle n'arrêtait pas de lui expliquer qu'elle avait peur des Noirs dans la rue et qu'il fallait que lui aussi en ait peur. Et donc, si tu veux, il a pardonné le racisme de sa grand-mère, et c'est en pardonnant le racisme de sa grand-mère qu'il est parvenu à aussi comprendre, je dirais, le fin fond de l'âme américaine, tu vois, et de l'électorat, même s'il a plutôt eu un électorat un peu aisé et tout ça, mais enfin, voilà, ça lui a permis d'être élu. Et je pense que cette idée de métissage est très dynamique et très enrichissante et aux États-Unis. Donc il y a aussi des résultats. On peut pas dire que leur logique de communauté ne produit rien. À un moment donné, elle produit quand même des élites. Ce qu'on appelle le black empowerment.
Aux références culturelles mixées.
Exactement.
Elles aussi.
Exactement.
Et ça, c'est un leg qu'on sent chez le personnage principal de votre livre, le narrateur. Il ne fait pas d'hierarchie entre ces différentes références. Il n'y a pas de culture, de haute culture ou de basse culture.
Non.
Tout ça, elle produit c'est l'ultime résultat de la pop culture. C'est-à-dire, on va on a parlé de Cézanne tout à l'heure, jusque aux Strokes, dont le concert est annulé au moment où le narrateur cherche à les voir sur scène. Parlez-nous de ça, parce que ça semble très naturel. Je vous connais un petit peu, je sais où vous sortez, où vous traînez, comment vous travaillez, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie. Néanmoins, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'imaginer que voilà, il n'y a pas de hiérarchie en fait dans l'art ni dans les pratiques culturelles.
Alors, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que oui, dans la logique pop culture, tout se vaut parce que, effectivement, un bouquin de, d'André Gide et une chanson de, de David Bowie, tout ça. Enfin, oui, on peut dire que tout ça, c'est comme des inputs, comme des moments. C'est vrai. Mais dans le livre, quand même, c'est là où le personnage quand même émerge un peu et sort de ça, justement, de cette espèce de relativisme, tu vois. Enfin, c'est que justement devant cette toile de Cézanne, précisément, il s'échappe de ça, il s'élève à travers cette peinture. C'est-à-dire que il chasse les démons de France Gall et de Cézanne peint, tu vois, cette espèce d'horrible scie du top 50, pour accéder aux vraies années 80 de Cézanne, les années 80 du 19e siècle. Et donc justement, à ce moment-là, il s'échappe en fait de son propre conditionnement, je redis pour encore une fois top 50 années 80, pour arriver à quelque chose d'un peu plus épuré, d'un peu plus adulte. D'ailleurs, après, quand il descend dans la boutique où il retrouve sa mère, il achète du jazz, une compile des années 20 à 50 de jazz, un truc qu'il n'aurait jamais fait avant, c'était impossible pour lui, parce qu'à ce moment-là, il comprend aussi. Il est tellement dans un état de choc, si tu veux, malgré lui, parce qu'en fait, il a l'air indolent.
Ça le rassure.
Oui, et puis surtout, il se rend compte qu'il a besoin d'histoire. Quoi. Il a soifé d'histoire, il a soifé de racines et il veut comprendre. Donc, mais si tu veux, en plus, ce mouvement qu'il fait en lui, c'est un mouvement que fait l'Amérique aussi. Parce que l'Amérique, c'est un pays, enfin, c'est un pays, c'est presque un continent, mais en tout cas, c'est une culture qui va tout le temps de l'avant. C'est Don't Look Back de Dylan, c'est-à-dire, on a des rétros sur les voitures, mais ça s'arrête là. On ne regarde jamais derrière aux États-Unis, on avance. C'est une espèce de modernité destructrice comme ça, qui prométhéenne, qui. Mais si tu veux, il n'y a pas de retour sur soi, il n'y a même pas de surmoi, il n'y a rien, si tu veux. On y va, quoi. On est bourrin, on a des tanks, on a des machins, ça marche. Donc, on avance. Et donc, si tu veux, après le 11 septembre, la claque, au-delà des victimes, des casualties humaines, qui sont importantes, mais la claque symbolique a été tellement forte, si tu veux, c'est la première fois que les États-Unis sont frappés chez eux. C'est-à-dire qu'il y a eu Pearl Harbor, c'était quand même Remote Island, c'était quand même un peu loin. C'était territoire américain, mais c'était pas là. Là, c'était à New York, c'était la première fois. Mais si tu veux, il y a eu une espèce de. Presque de. Enfin, je ne sais pas dire le mot, mais. Une espèce de déniaisement, enfin tu vois, il y a une espèce presque de dépucelage quoi, de l'Amérique qui tout d'un coup se trouve avec un espèce de coin enfoncé, le World Trade Center, qui était la vitrine du pays. C'est comme si tu dis et en plus cette vitrine était très éclairante sur la nature même, puisque c'était l'idée du double, c'est-à-dire que World Trade Center, c'était l'idée qu'il y a toujours une recharge, comme dans un jeu vidéo, tu as toujours une vie derrière. Tu veux, c'est pas grave, on a un backup. T'inquiète pas, j'ai la sauvegarde. Et là, donc tout d'un coup, l'idée d'avoir les deux tours qui tombent, parce qu'il n'y en aura qu'une, bon, mais d'avoir les deux tours qui tombent quasiment en même temps, donc ces deux tours en miroir, ça a été aussi la fin d'une forme de second degré Voilà, c'était une vraie attaque sur l'identité profonde américaine. Donc ils se sont recentrés, ils se sont recherchés, ils se sont dit, on a 150 ans d'existence, est-ce qu'on n'a pas une littérature, est-ce qu'on n'a pas un cinéma, est-ce qu'on n'a pas un art, est-ce qu'on n'a pas une façon d'être, ce que Bush a après voulu défendre, hein, c'était le style de vie. Mais à ce moment-là, voilà, j'ai vu, moi, sous mes yeux, les New-Yorkais se posaient des questions d'identité et pour la première fois se retournaient sur leur histoire en disant mais pourquoi on attaquait un mardi matin comme ça, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, et on comprend pas, les gens n'ont pas compris, enfin ils ont, l'effet de sidération, de surprise était total, personne pouvait, à part les services français qui étaient quand même renseignés, qui avaient fait des petites notes pour les services américains pour les prévenir que quelque chose allait se passer. L'opinion la rue, les gens, les médias, personne, enfin, on était complètement médusés par ça. C'était pourquoi, tu vois ? Il n'y avait pas d'assigné annonciateur, il n'y avait pas eu de. On était, les États-Unis à ce moment-là n'étaient pas sur un front, un théâtre de guerre de proprement identifié. Il y avait des petits, il y avait des opérations, si tu veux, mais il n'y avait pas de trucs. Voilà, on ne comprenait pas. C'était pas dans le, dans les, tu vois, c'était, ça arrivait vraiment, paf, comme ça. Et donc ça, ça jouait son effet à plein. Et donc ça a vraiment, vraiment, vraiment remis les choses en question, y compris sur le terrain des religions, puisque tout le monde s'est dit d'accord. Donc en islam, ils sont capables de ça. Ils sont capables de se préparer pendant des années, en s'intégrant, en allant boire des coups en discothèque, draguer des filles, s'habiller à l'occidental, etc., faire des études, des bacs plus 7, plus 8, aller dans des écoles de pilotage. Enfin, ils sont capables, comme ça, pendant des années, de renoncer tellement à eux-mêmes, sans rien lâcher au fond, puisque leur plan est tracé. Ils savent qu'un jour, il faudra monter dans un avion et écraser l'avion sur une tour. Mais ça veut dire que pendant des années avant, et c'est ça qui est peut-être l'insulte la plus profonde, c'est que ce n'étaient pas des Palestiniens qui ont plus d'argent et qui, par désespoir, mettent une ceinture de bombe. C'était des gens qui ont sciemment préparé ça pendant des années.
Et que ça aurait pu être le narrateur, en quelque sorte.
Bon, non, ça, je crois. Je...
Non, mais je veux dire, en termes de... Non, mais quand vous racontez que ce sont des, voilà, ces terroristes sont des gens de l'intérieur, en tout cas, ont intégré ou ont vraiment intégré le système dans son entier pour arriver à cet attentat, en suivant le mode de vie américain, en se formant, en
faisant parler de... C'est une insulte totale, tu t'imagines, ça veut dire pour les Américains que des gens qui ont été au contact de leur style de vie, de leur mode de vie, de leur lifestyle, etc., mais finalement, on dit non. Enfin, ils ont, il n'y a eu aucun moment où ils ont douté, tu vois. Et c'est ça, la vraie tragédie aussi dans cet événement, c'est que les Américains se sont dit, mais donc on est capable... Enfin, on est incapable, justement, par le charme de notre société de consommation, ou, etc.
De les convertir absolument.
Voilà, de les faire changer d'avis. À aucun moment, ils ont dévié. C'est quand même fou, parce que c'est désespérant. On se dit, mais alors, ils n'ont pas aimé les boîtes de nuit, ils n'ont pas aimé les filles, ils n'ont pas aimé aller faire les tennis. Ils ont pas... Non, il n'y a rien qui les a fait sortir de leur plan. Ils avaient cette volonté de purification, de violence purificatrice... Et voilà, de destruction au cœur de l'Occident, c'était leur plan, et ils l'ont tenu, quoi. Il faut un sang-froid, mais de fou furieux, pour arriver voilà, à faire tout ça, et puis le jour venu, arriver dans l'avion, et sortir des cutters, et voilà. Et donc en plus, triple insulte, parce qu'il y a ça. Ensuite, il y a l'effet que les États-Unis sont quand même technologiquement le pays le plus, tu vois, le plus présent, le plus revendicateur, etc., parfois même le plus agressif, et que des gars avec des cutters et une détermination sans faille sont arrivés avec beaucoup de lâcheté aussi, parce que c'est quand même détourner des avions de civils. C'est pas héroïque, hein, je suis pas en train de te dire ça, je te dis juste que dans la psyché américaine, c'était une remise en question from scratch, comme ils disent. D'ailleurs, vraiment, ils ont tout repris à zéro dans leur tête, dans leur vie, et c'était leur force. C'est-à-dire que ça a été aussi ce qui leur a permis d'avancer, c'est-à-dire qu'ils se sont dit « Ok ». Donc ça peut arriver, mais ça n'arrivera plus. Et d'ailleurs, c'est plus arrivé depuis. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont repris en charge, en main. Alors, d'un côté, avec Bush, les conservateurs et le Patriot Act, et c'est-à-dire tout le monde se surveille, etc. Puis ça a donné des séries comme 24 heures chrono avec de la torture, enfin voilà, il y a toutes les années 2000. Mais aussi, de l'autre côté, avec des gens, des démocrates, qui se sont reconfigurés, qui se sont cultivés, qui se sont ouverts, et qui ont donné Obama. Donc en fait, le problème, c'est que voilà, t'as Obama, j'en fais pas non plus, c'est pas un saint, je sais bien qu'il envoie des drones et tout ça, mais il y a quand même deux Amériques dans l'histoire. C'est pour ça que je déteste qu'on dit les Américains.
Il y a deux Amériques dans Livia, New York, avant tout. On a souvent l'habitude de dire que New York n'est pas les États-Unis. Je voulais revenir sur le personnage principal, le narrateur, qui s'identifie donc au destin de l'Amérique et au baigneur de Paul Cézanne, autrement dit ce personnage mégalomane, totalement ou presque. Je voudrais vous parler de l'autofiction, de ce qu'on appelle l'autofiction dans le roman français, qui est donc cette forme de roman à la première personne.
C'est quoi la clé du bouquin ? Mais d'ailleurs, c'est... C'est pour ça que j'ai dit que ma mère était juive dans le bouquin et que je me fais... Enfin, du coup, on me dit « Ah, mais dans ce cas, t'es juif si ta mère est juive ?» Je dis « Ben oui, mais non, mais... » En fait, c'était dans un hall de Woody Allen. À un moment donné, t'as Woody Allen qui est... Moi, j'étais très complexé physiquement, donc moi, j'adorais Woody Allen parce qu'il sortait tout le temps avec des super femmes et alors qu'il ressemblait vraiment à rien. Et je me suis dit, c'était un modèle pour moi parce qu'il s'en sortait toujours par la parole et par l'humour. Et à un moment donné, donc dans un hall, il est amoureux de Diane Keaton. Et il va dans une espèce de convention de comique. Et parce que donc son métier dans le film, c'est d'être un espèce de mec de cabaret, tout ça, de showman, de gagman. Et donc il est payé à la vanne, en fait. Diane Keaton s'éloigne un peu. Donc il y a une ouvreuse dans cette salle qui veut séduire. Et il monte sur scène. Et il dit... j'ai essayé de faire, et il me dit, bon, je viens de divorcer, je suis désolé parce que je viens d'essayer de faire avec ma femme ce que Eisenhower a essayé de faire avec vous pendant 45 ans. Et si tu veux, apparemment, il dit ça, il me dit, bon, voilà, tu vois, pour moi, tout est là-dedans, c'est-à-dire que se mettre au niveau de l'histoire, enfin, faire intervenir l'histoire,
on va reprendre, parce que là, je comprends pas. Woody Allen, le livre, le personnage, l'autofiction, qu'est-ce que vous vouliez dire?
J'ai essayé de faire avec ma femme ce que Eisenhower a essayé de faire avec vous pendant 45 ans. La salle est pliée de rire et la fille, évidemment. Oups là, pardon. Et la fille, évidemment, est conquise. Tu comprends? Et donc, si tu veux, c'est cette idée de prendre l'histoire à témoin dans ton histoire à toi. Et de te dire, par exemple, je sais pas, c'est comme si je te dis, le jour où Mitterrand est élu, j'ai acheté Pif Gadget. Enfin, tu vois,
c'est bien sûr.
De mettre les gros événements au niveau du petit et de faire que tout, enfin, et de chercher l'humour dans ça, c'est ça que je
dans trouve. Dans cette confrontation, mais voilà. Le livre est vraiment écrit là-dessus. Vraiment.
Voilà. Et c'est pour moi, toute la clé, elle est là. Donc, effectivement, après, c'est pareil.
C'est ce qui fait l'architecture du livre, c'est ce qui le tient.
C'est ce qui construit le bouquin. Et donc,
c'est ce qui fait sa cocasserie, son humour et sa légèreté.
Putain, merci, Ariel.
Mais c'est, non, ça c'est vrai, je le pense, sinon je ne dirais pas.
Mais c'est ça qui fait surtout que le fait d'avoir un point de vue ashkénaze new-yorkais là-dessus était intéressant. Après, dans la mesure où ma mère se convertit, puisqu'en fait elle s'ouvre la mère du personnage se convertit au christianisme, puisque à l'occasion de cet apocalypse du 11 septembre, l'apocalypse au sens originel, c'est-à-dire dévoilement, révélation, apo c'est loin et calypse c'est le voile, donc tu enlèves les voiles.
Tu enlèves le voile.
Ouais, le voile, donc tu te dévoiles. Et donc elle devient chrétienne à ce moment-là, ce qui m'a valu un commentaire d'ailleurs sur Internet, comme quoi j'étais antisémite finalement.
Nous resterons là-dessus. Nous...
Mais non, mais c'est ce qu'il dit. Mais il dit, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle s'ouvre au monde et qu'elle guérit, forcément elle peut plus, et forcément elle devient chrétienne. Je dis oui, quelque part c'est ce que m'avait dit mon oncle en fait. L'idée me venait de lui. Mon oncle, c'est un intégriste chrétien, catholique, qui fait la messe en latin et tout ça, et qui était recteur, doyen de la faculté de médecine de Toulouse. Et donc, il me disait, donc il n'est pas vraiment antisémite, mais il est quand même, il est anti-tout, lui. Et donc, il me dit un jour, j'étais à une conférence avec tous les Cohen qui étaient là dans la salle. Et en fait, les Cohen, ça veut dire les docteurs, parce que c'est bon. Et donc, je dis oui. Et il me dit, bon, ils m'ont laissé la parole, et donc j'aurais dit que je me sentais aussi juif qu'eux, et même peut-être un peu plus, puisque je me sentais comme un juif accompli. Il me dit, ça les a fait rire. Et j'ai dit, dans ce cas-là, et il avait gagné, il avait gagné son pari.
Quelques questions très rapides. Donc, c'est votre premier roman. Vous avez des projets d'écriture?
Il y a la suite.
Une suite, c'est-à-dire vous voudriez reprendre le même personnage d'Arthur Gannat?
Je ne sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je ne sais pas, c'est dans
un... Toi qui as écrit 6 romans, Ariel.
Je ne sais pas, ça dépend de votre manière de travailler.
Oui, alors moi j'aime bien l'idée de saga, et de un peu comme Malocène.
On pourrait même l'imaginer dans un autre événement historique de grande ampleur.
Oui, alors, pour l'instant, mon plan, pour la suite... ça serait d'étudier les séquelles, donc c'est le retour en France, essayer d'étudier ce que moi j'appelle les répliques françaises du 11 septembre, mmh. qui sont des mini 11 septembre personnels, mais évidemment ça n'a aucun rapport. Mais ça va de l'usine AZF qui explose à Toulouse une semaine après en 2001, au coup de boule de Zidane, en passant par l'affaire Canta, l'échec de Ségolène, etc. Enfin, à chaque fois, c'est des...
Ségolène voilà, Royal.
Oui, parce qu'à chaque fois, c'est des incohérences. C'est les émeutes en banlieue en 2005, etc. C'est des incohérences telles, des accidents de l'actualité telles, puisqu'on est rentré dans le temps réel de l'actualité aussi pendant ce temps-là. Parce qu'on parlait de la première vague d'Internet, mais il y a eu la deuxième, avec l'Internet social, avec les chaînes d'infos en continu. On est complètement collé à l'écran. Tu vois bien que, par exemple, sur l'affaire Strauss-Kahn, qui, elle aussi, se déroule sur cette joyeuse île de Manhattan, on était comme ça devant une maison à Tribeca pendant des journées. Regardez, est-ce qu'il a ouvert la porte? Est-ce que le livreur de pizza est arrivé? Donc, si tu veux, on devient fou. Donc, et je pense que voilà, tout ça est amené par le...
Peut être intéressant à exploiter dans l'écriture. Merci, Guillaume Fedoux.